Welcome. You will never forget.
Tous les sens sont permis. Tous les sens sont permis. Tous les sens sont permis.
Tous les sens sont permis.
Sont permis.
Bonjour, c'est le podcast d'à côté. Nous sommes au Vivat à Armentières pour le spectacle punk de Renaud Cogeau. Bonjour Renaud Cogeau.
Et bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Ce spectacle, vous le mûrissez depuis une dizaine d'années. Pourquoi le sortir aujourd'hui ?
Oh là, c'est produire un spectacle en France devient de plus en plus compliqué. L'économie est plus celle qu'elle l'était il y a quelques années. Et puis c'est pas seulement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau avoir plein d'idées. Pour la sortir du panier, pour pouvoir la réaliser, il peut se passer beaucoup de temps. Parce que monter une production comme punk, c'est surtout faire multiplier beaucoup de rendez-vous, justement, pour monter ce qu'on appelle une production autour de ce projet-là. C'est aussi écrire, donc ça peut prendre du temps. C'est aussi rassembler une équipe, ça aussi, ça prend du temps. Et quand je dis une dizaine d'années, peut-être même que c'est plus, je sais pas, une dizaine d'années, ça synthétise bien l'idée que, oui, moi, ça fait très longtemps que je voulais faire un projet sur ce mouvement-là, le punk, parce que, en 76, moi j'avais 10 ans, et donc je l'ai vécu évidemment un peu de l'extérieur, mais que plus tard, à mon adolescence et dans ma construction intime, il m'a nourri d'une façon ou d'une autre ce projet. Moi, à l'époque, je viens du sud-ouest, et j'ai été élevé en partie par ma grand-mère, et ma grand-mère habitait du côté de Mont-de-Marsan. Et en 76 et en 77, il y a eu un énorme festival punk en France, à Mont-de-Marsan, dans les arènes, avec les plus grands groupes. Il y a eu les Clash étaient là, Sting était là à l'époque. Et donc, j'ai pas pu assister, moi j'étais trop jeune. Et c'est vrai que je savais que ça existait, je savais que c'était là. Et c'est peut-être cette frustration qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien nourrir un prochain projet. Alors évidemment, le phénomène punk, quand on en parle, puisque ça fait 10 ans que je mûris, en quelque sorte, c'est pas exclusivement... Pour moi, aborder un projet musical, c'est aussi aborder un projet social, puisque le punk est né d'un certain nombre de défaillances d'un système économique dans lequel aujourd'hui on se rend bien compte qu'il est à bout de souffle. Mais déjà dans les années 70, il y avait ces fermetures d'usines aux États-Unis, en Angleterre, et le punk est né à peu près au même moment, et en Europe et aux États-Unis, et après c'est un phénomène mondial, mais il est né aussi d'une grave crise économique, et que moi je suis un gamin qui est né en 66 et j'ai connu un petit peu les 30 Glorieuses, et c'est vrai que le punk est venu apporter de l'eau au moulin de la contestation, et moi comme je suis plutôt quelqu'un qui conteste beaucoup, je trouvais que c'était bien de mûrir un projet autour du punk. Et donc oui, 10 ans, mais c'est peut-être encore plus vieux.
Et donc c'est pour ça que vous voulez faire parler du punk au théâtre?
Alors, c'est un projet de théâtre, bien sûr, puisque, comme beaucoup de productions que je peux faire, c'est un projet dans lequel il y a à la fois du texte, il y a à la fois beaucoup d'images vidéo qui sont pas des illustrations, qui sont des espèces de virgules qui nous permettent de nous rendre compte aussi, de ramener l'époque. Parce que je travaille aussi pas mal à partir d'images d'archives, même au niveau du son. Et quand le punk a explosé, notamment en France, le punk était vu comme quelque chose d'absolument radical, dangereux, horrible. Enfin, on entendra des petites choses dans le spectacle. Et ramener ça au théâtre, c'est ramener aussi la contestation de l'époque au théâtre, dans une époque qui aujourd'hui, Le punk s'est muséifié un petit peu, c'est-à-dire qu'il est devenu, il y a des gens très sérieux qui font des conférences autour du punk. On a fait des expositions, notamment à la Cité de la Musique, il y a quelques années, autour du punk. Il y a eu comme ça des projets, et le punk est devenu un mouvement parmi d'autres. Et comment le ramener dans sa force contestataire au théâtre, c'était redonner une dimension un petit peu essentielle à ce mouvement-là. Donc oui, c'est avant tout un projet de théâtre, mais quand même... dans ce projet-là, il y a aussi de la performance physique dans lequel il y a un engagement physique très fort des deux performeurs, Annabelle Chambon et Cédric Charron. Et c'est pas que du théâtre joué, c'est aussi du théâtre physique, ce que je propose demain.
Vous avez fait des études en sociologie. Du coup, comment vous l'analysez, le mouvement punk aujourd'hui ?
Alors l'analyser, c'est, on a tous les éléments aujourd'hui pour l'analyser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il vient à un moment donné où la fin des Trente Glorieuses, elle se signe avec le premier choc pétrolier en 1973. Le punk est né 3 ans après, donc il a eu le temps de s'installer dans une espèce de rage. C'est une époque où on vivait ce que j'appelle moi des aventures collectives, c'est-à-dire que les gamins, 13, 14, 15, 16 ans, se retrouvaient en bande, pour, du jour au lendemain, monter des aventures collectives qui passaient par le groupe de musique. Et c'est des gamins qui, pour la plupart, ne savaient pas jouer de la guitare, ne savaient pas jouer de la batterie. Ils n'avaient pas, comme aujourd'hui, ces prothèses affectives iPhone ou Samsung, où aujourd'hui on a des aventures plutôt très solitaires, en fait. À l'époque, non, la contestation, elle était générée dans le groupe, elle était vécue dans le groupe, et elle passait par la musique. Et elle passait pas que par la musique, elle passait aussi par la mode vestimentaire. Il y a une femme qui s'appelle Vivienne Westwood, hein, qui est morte il n'y a pas très longtemps, hein, qui a elle été un peu une icône du mouvement punk, parce que c'est elle qui a créé un peu l'iconographie, en tout cas la mode vestimentaire punk. Donc comment je l'analyse ? Je l'analyse comme à un moment où la société elle est en défaillance, elle est en crise, et que les jeunes, puisqu'il n'y a pas de travail, ou de moins en moins, puisque l'économie s'affaisse, eh ben, ils essaient de produire des aventures communes dans lesquelles ils se retrouvent, et ça passe par la musique. Donc ça, c'est un des éléments. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un élément un peu moteur, en tout cas, du phénomène.
Le punk est-il mort ?
Alors, punk is dead. c'est ce que disaient les punks, hein. Et parce que c'est ça. C'est aussi ce qui est très fort dans le punk, c'est l'aspect un peu éphémère du projet punk. C'est-à-dire que certains se sont consumés, mais vraiment physiquement dans leur vie. Certains sont morts, beaucoup d'ailleurs. Et que c'était une brûlure aussi. C'était une forme d'autodestruction, le punk. Mais la rage, pour moi, elle est pas morte, elle existe aujourd'hui à travers d'autres types de canaux qui sont peut-être moins musicaux. Le mouvement rap, par exemple, c'est aussi une forme de rage, mais c'est une industrie, le rap. Le punk, au départ, n'était pas une industrie, il l'est devenu, hein, parce que Malcolm McLaren, par exemple, qui était le gars qui a fondé un groupe qui s'appelle les Sex Pistols, c'était un groupe commercial aussi, il faut le savoir, c'était presque un boys band en fait. Il avait fait passer des auditions à des gamins, donc Sid Vicious, Johnny Rotten, etc., pour construire un groupe, et c'était presque le début des boys bands. Donc oui, le mouvement punk est mort, mais aujourd'hui la colère, elle existe à d'autres endroits, je pense.
En fait, vous avez appelé votre compagnie Ouvre le chien.
Oui.
Est-ce bien un rapport à David Bowie ?
Oui, bah, y a une allusion. Alors, c'est, Ouvre le chien, le nom de la compagnie, c'est un nom à tiroir, c'est-à-dire qu'il a plusieurs significations. Et parmi ces significations, il y a, oui, cette chanson qui s'appelle All the Mad Men, qui est une chanson de 1971, dans laquelle Bowie parle beaucoup de folie, et notamment celle de son frère. Il avait un demi-frère qui s'appelait Terry, qui était un garçon qui passait beaucoup de temps en asile psychiatrique, qui avait des gros soucis de santé. Et à un moment donné, dans ces paroles-là, donc « All the Mad Men », Bowie dit en français, dans le texte, « Zane, 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 ouvre le chien ». Et plein d'exégètes, plein de personnes qui ont réfléchi à l'écriture de Bowie et à son... à ces influences, n'ont jamais compris ce que ça voulait signifier, ce que ça pouvait signifier. Et moi, j'aime bien quand on n'arrive pas à donner des noms à des choses, et j'aime bien ne pas comprendre. Et donc, j'ai gardé ce « ouvre le chien » qui était un peu énigmatique aussi pour générer le nom de ma compagnie.
J'ai vu que vous étiez fasciné par David Bowie et que vous l'aviez vu 37 fois.
Oui, en concert, oui.
Qu'est-ce qui vous inspire autant chez lui ?
Je sais pas. C'est quelqu'un de très inspirant, déjà dans sa musicalité, déjà dans sa posture en vis-à-vis du cinéma ou de la littérature. Puis surtout, voir Bowie sur scène, c'était... Il ne passait pas grand-chose, mais c'était assez incroyable, avec quel type très charismatique. Et puis tout son répertoire musical, pour moi, ce sont des marqueurs d'époque que j'ai pu traverser. Donc c'est presque un journal intime, en fait, Bowie. Mais comme peuvent l'être d'autres artistes, pour chacun, chacune d'entre vous. Hein.
Et il y a plusieurs Bowie, en fait.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
On a notre Bowie un petit peu...
C'est-à-dire que c'est un type qui a tellement changé à la fois de style musical, d'aspect physique, etc., qu'il a épongé un peu les... Beaucoup de gens disent, mais Bowie, il a tout pompé. Oui, il a tout pompé, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il a aussi... il a pas fait que pomper, il a aussi digéré, il en a fait autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, quoi, chez ce personnage. Moi, j'ai créé un spectacle en 2015, donc un an avant sa mort. À l'époque, je savais qu'il était malade, mais c'est un projet plutôt autour de ses années berlinoises. Puisqu'en 76, puisqu'on parle du punk, Bowie a vécu le punk, mais il l'a vécu à Berlin. Et il l'a vécu avec son copain Iggy Pop. Ils vivaient dans le même appartement sur Hauptstrasse, sur un quartier qui s'appelle Frederikshavn, qui est un quartier très occupé beaucoup par les Turcs, donc beaucoup d'émigration, etc. Et Bowie, à l'époque, dans les années 75, avait consommé beaucoup de drogue, donc il était parti en Europe pour se reconstruire. Et donc il a traversé le punk grâce à un des aspects de cette musique-là, qui était le krautrock, le punk rock allemand. Et donc il a enregistré deux albums qui sont Low et Heroes. Et moi j'ai fait un projet donc en 2015, à partir des deux albums Low et Heroes de David Bowie, où j'ai fait un film que j'ai tourné à Berlin sur les traces de Bowie avec Bertrand Belin. Et c'était quelque chose que j'ai fait avec un orchestre symphonique de 90 musiciens à la Philharmonie de Paris, et ensuite qui a tourné un petit peu. Mais avant ça, j'avais fait, je crois qu'on a joué ici, mais je ne suis plus sûr, j'avais fait un projet autour de Ziggy Stardust, qui est un personnage créé par Bowie en 72, qui était un projet assez fou, puisque le fil rouge de ce spectacle-là, j'étais habillé en Ziggy Stardust. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais Ziggy Stardust, c'est un personnage hyper exubérant, avec cheveux orange, très féminin, très... hyper androgyne, beaucoup, un maquillage très, très prononcé, espèce de miroir sur le front. Et moi, je m'étais fabriqué la tenue et j'avais consulté un psychiatre habillé en Ziggy Stardust, et j'avais une petite caméra cachée, et j'avais fait un entretien avec un psychanalyste ou un psychiatre, plutôt un psychiatre, sur mon adoration, mon lien qui m'unissait à Bowie, et j'avais filmé la rencontre. Et cette rencontre-là qui était filmée était devenue le fil rouge du spectacle, et évidemment j'avais demandé l'accord du psychiatre pour diffuser les images dans le cadre de la représentation.
David Bowie était team punk.
Ah, il l'était forcément, alors pas au même titre que certains groupes qui aujourd'hui... n'existe plus, mais bon, je parlais des Sex Pistols tout à l'heure, mais les Ramones, les Clash, bien évidemment, avec une grande, avec des paroles très politiques, très très dans le cri. Mais Bowie a ça aussi. Il a eu cette rage à un moment donné, mais qui était beaucoup plus glaciale en fait. La rage chez Bowie était moins démonstrative et beaucoup plus glaciale, notamment en 76-77. Il a fait un album qui s'appelle Station to Station, qui est un album avec des paroles glaçantes. Et Bowie est quelqu'un qui connaissait très très bien l'histoire. Et ces phénomènes punk, il a été aussi très observateur de ça. Il s'est nourri de beaucoup de concerts punk. Il a assisté, il a vécu ça de très près. Et puis surtout, il a vécu avec Iggy Pop. Iggy Pop qui est quand même, qui avait un groupe à l'époque aux États-Unis qui s'appelait The Stooges. Donc à Detroit, qui est un groupe punk, hein, et Bowie a vécu ça de très près, bien sûr. So messed up, I want you here. In my room, I want you here. Now we're gonna be
votre spectacle punk, vous citez Lester Bangs.
Oui.
Alors, qui était-il?
Alors, Lester Bangs, donc seulement je le cite, mais en plus, il est là, il est sur scène. Il est interprété par un comédien qui s'appelle Antoine Le Simple. Lester Bangs, c'était ce qu'on appelle un rock critique. Un rock critique, c'est quelqu'un qui écrit dans des magazines musicaux et qui faisait beaucoup de chroniques d'albums qui sortaient à l'époque. C'est une littérature qui a un petit peu disparu. Aujourd'hui, on a eu, en France, on a eu Best, on a eu Rock and Folk. En Angleterre, on a eu The Melody Maker. Et aux États-Unis, on en avait deux. Il y avait les Rolling Stones, un magazine qui s'appelait Rolling Stone, comme le groupe, et un magazine qui s'appelait Cream. Et Lester Bangs a beaucoup écrit sur la musique, a beaucoup écrit sur le punk, puisque c'est à lui qu'on doit le terme de punk, mais c'est surtout quelqu'un qui avait une écriture que j'appelle une écriture à l'estomac. C'est pas une écriture, c'est pas la littérature, c'est de l'écriture presque parlée, et donc éminemment théâtral, dans une oralité où il rentre dedans, il est hyper incisif, il est beaucoup de métaphores. Et donc, quand j'ai lu les textes de Lester Bangs sur le punk, je me suis dit, mais c'est une langue de théâtre, il faut absolument jouer ça. Donc, sur le projet punk, qu'est-ce qu'on a sur le plateau? On a l'appartement new-yorkais de Lester Bangs, dans lequel il produit cette littérature un peu à l'estomac, comme ça, à l'emporte-pièce. Et on a un premier monde très concret, hein, c'est un canapé, sa machine à écrire, de la bière. C'est un alcoolique, Lester Bangs, et il consommait beaucoup de drogue. Donc évidemment, il avait des visions comme ça. Et donc sa littérature, elle est traversée par ça. Et donc, ces visions-là, on les voit pendant le spectacle, puisqu'elles sont incarnées justement par les performeurs dont je parlais tout à l'heure. Donc, Lester Bangs, c'est quelqu'un qui ensuite est mort en 1981. Il est mort pas d'une overdose, mais enfin d'une suite médicamenteuse qui était un peu dure, quoi.
Votre spectacle, vous l'avez joué déjà au Théâtre National à Bordeaux. Comment a-t-il été reçu ?
Il a plutôt été très bien reçu par le public et par la presse, qui ne s'est pas déplacée en nombre, mais tout ce qu'on a eu était plutôt très bien. C'est un spectacle qui ne laisse pas les gens indifférents, je pense, puisqu'effectivement, dans son énergie, dans ce qu'il raconte, il produit peut-être des réactions un peu contradictoires. Mais c'est la force des projets que j'ai envie de défendre, moi, au théâtre. C'est-à-dire que le théâtre, c'est pas la télévision. La télévision est plutôt très consensuelle. Le cinéma l'est de plus en plus. Et moi, je pense que le théâtre, il y a encore une place, justement, pour peut-être créer un peu de division. Mais les divisions, c'est ce qui nous rassemble. C'est ce qui nous permet de peser le pour et le contre. C'est ce qui nous permet de débattre. Et le théâtre, à mon avis, c'est encore un endroit où on peut faire ça. Mais là, dans le spectacle, vous allez voir, vous me direz demain. Ce que vous en avez reçu, comment ça s'est passé pour vous, mais c'est sûr que, à la fois dans la puissance musicale, dans la puissance des mots et dans la puissance physique, bah, il se passe des choses, et le public à Bordeaux était plutôt au rendez-vous, et ça s'est plutôt bien passé.
Et vous, Renaud Cojo, êtes-vous punk ?
Non, j'aime bien défendre des idées un peu différentes. J'aime bien prendre le contrepoint de ce qui se fait généralement dans ce type de lieu, etc. Donc la contestation, c'est quelque chose qui m'anime. Mais après, non, je suis quelqu'un de très rangé. peut-être qu'à l'adolescence, j'étais un petit peu plus véhément, un petit peu plus démonstratif, mais avec l'âge, on s'assagit.
Merci. Bien, merci.
Merci à vous, en tout cas.
Et puis, on verra votre spectacle demain.
Il y a intérêt.
Demain, avec plaisir.
Et puis, je serai à l'écoute de la façon dont vous l'avez reçu.
D'accord.
Merci à vous, en tout cas.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci. Merci.
Merci de nous avoir suivis. Vous étiez en compagnie de Renaud Cojo, de la compagnie Ouvre le Chien. L'interview a été réalisée par Sylvie, Christine, Manu, Mathilde, Johnny et Kevin. Un grand merci à Perrine, Karine, Alicia, Laurence et Clotilde pour leur soutien dans la préparation de cette émission. Vous avez pu entendre de courts extraits musicaux. Il s'agissait de London Calling de The Clash, Punk is Dead de Crass, I Wanna Be Your Dog de The Stooges et Call Me de Blondie. Nous terminons cette émission en musique avec Are You Mine de The Scraps, un groupe de rock issu des ateliers Jules Leclerc. Bonne écoute et à la prochaine.
I'm gonna be slamming.
Are you mine?
I'm gonna have my fun.
Are you mine?
Are you ready to feel?
Are you mine?
I'm gonna make you shiver.
Are you mine?
I'm gonna be shocking.
Are you mine?
I'm gonna let you burn.
Are you mine?
I'm gonna kiss your skin.
Are you mine?
At first. I wanna be the beauty, I wanna be the monster. I wanna set you free, I say I wanna be your master. I wanna be your sin, I wanna be your doll. I know you're scared of me, but I just wanna make you love. Don't ask me questions, dear. No, I ain't got the time. No, I ain't got the time. Don't ask me questions, dear. No, I ain't got the time to spare. Don't ask me questions, dear. No, I ain't got the time. No, I ain't got the time. Don't ask me questions, dear. No, I ain't got the time to spare. All you wanna hear,
are you mine?
Is everything you fear,
are you mine?
So don't you come too near,
are you mine?
I'm everything you need.
I wanna be the beauty, I wanna be the monster. I wanna set you free, I say I wanna be your master. I wanna be your sin, I wanna be your dough. I know you're scared of me, but I just wanna make you love. Don't ask me questions, dear. No, I ain't got the time. No, I ain't got the time. Don't ask me questions, dear. No, I ain't got the time to spare. Don't ask me questions, dear. No, I ain't got the time. No, I ain't got the time. Don't ask me questions, dear. No, I ain't got the time to spare. Don't ask me questions there. No, I ain't got the time. No, I ain't got the time. Don't ask me questions there. No, I ain't got the time to
sont permis.
Tous les sons sont permis.